ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، مرة أخرى نتعرف معكم على خصلة من خصال عباد أرحم الراحمين. ونحن اليوم مع قول الله تبارك وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. في هذه الآية الكريمة يا عباد الله سؤالان: سؤال عباد الرحمن ربهم أن ينفعهم بطاعة أقاربهم، وسؤال عباد الرحمن ربهم أن ينفع المتقين بطاعتهم فيقتدوا بها. فأما قولهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، فقد قال ابن كثير رحمه الله: أي الذين يسألون الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم وذرياتهم من يطيعه وحده، من يطيعه ويعبده وحده لا شريك له. وسئل الحسن البصري رحمه الله عن هذه الآية فقال: أن يري الله العبد المسلم من زوجته وذريته وإخوانه وحميمه طاعة الله. فعباد الرحمن يسألون ربهم أن يهب لهم قرة أعين في أزواجهم وذرياتهم. كيف ذلك؟ الله عز وجل أخبر في كتابه أن من الزوجات والأولاد أعداء لأنفسنا، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فلما علم عباد الرحمن ذلك لجأوا بقلوب خاشعة إلى ربهم عز وجل يدعونه تبارك وتعالى أن يهب لهم زوجات صالحات قانتات وأولادا طيبين مباركين. فلما استجاب لهم ربهم فوهب لهم ما أملوه لم يجدوا فرحة وسرورا أعظم من أن يروا من تحت رعايتهم ساجدين راكعين لربهم خاشعين مطيعين. كما قال محمد بن كعب رحمه الله: ليس شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده مطيعين لله. وأما اليوم فانعكست الحال، ولا حول ولا قوة إلا بالله الكبير المتعال. إذا رأى الرجل ولده وقد وفق للهداية واتباع السنة ظاهرا وباطنا، إذا رآه كذلك اسود وجهه وانعبس وجهه إذا رآه يصلي غض أنامله من الغير، وإذا رآه يلبس القميص أو ينزحي كأنه رأى مصيبة من أعظم المصائب. سمعه يقرأ القرآن في بيته قال له اترك هذا، لم تزل صغيرا، لا تشغل نفسك بذلك، اذهب تبحث عن عمل، ابحث عن وظيفة، افعل كما فعل ابن فلان الذي استقرض في البنك فبنى بيتا واشترى سيارة، هكذا نريد منك أن تكون. فيا سبحان الله، يا سبحان الله، أخبروني بارك الله فيكم أين الفرق بين هؤلاء وأبي لهب وأبي جهل؟ أتدرون ما الفرق بين الطائفتين؟ هؤلاء الصادون عن سبيل الله يزعمون ويحسبون أنهم مسلمون، وأما أبو جهل وأبو لهب ومن كان على شاكلتهما فهم كفار. نعم، كم من الأخوات يشتكين من ضرب وسب آبائهن لهن عندما احتجبن، وكم من الإخوة طردوا من بيوت آبائهم لما امتنعوا عن حلق لحاهم. سبحانك ربنا ما ألطفك وما أحلمك. ثم ترى هؤلاء الصادين عن سبيل الله يذهبون إلى المساجد أو إلى صلاة العيد وغيرها يظهرون ما عندهم من الإسلام، وأي إسلام هذا؟ وأي إسلام هذا؟ فعباد الرحمن إذا رأوا زوجاتهم وأولادهم صالحين قرت بذلك أعينهم. فبالله عليك، أهناك شيء أجمل من أن ترى امرأتك في الليل وقد قامت لتصلي؟ بالله عليك يا عبد الله، أهناك شيء أجمل من أن تدخل في غرفة ولدك فإذا به ماسكا المصحف يرتل القرآن؟ فبالله عليك يا عبد الله، أي شيء أجمل من أن ترى بنتك تحتجب وتعقد أناملها بالتسبيح؟ لا والذي نفسي بيده، لا والذي نفسي بيده، هذا أجمل وأعظم وأجل من ملايين الدولارات واليوروات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فهل من معتبر؟ وهل من مدكر؟ هل من معتبر؟ وهل من مدكر؟ أين الصالحون المحبون للخير؟ أين الزاهدون التاركون لما لا ينفع في الآخرة؟ ألم تسمع يا عبد الله إلى ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين دربت يداك، فاظفر بذات الدين دربت يداك، فاظفر بذات الدين دربت يداك. وأنت يا عبد الله، كيف زوجتك؟ أهي سرية؟ أهي شريفة؟ أهي جميلة؟ ألذلك اخترتها لك زوجة؟ فإن كان الجواب نعم، فكيف ينفعك جمالها وشرفها ومالها عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون؟ أما دينها فهو الذي ينفعك في الدنيا والآخرة، والله ألم تقرأ ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وذكر غير واحد من المؤرخين أن الرجل من السلف كان إذا خرج من بيته تقول له امرأته: يا عبد الله، يا عبد الله، اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من الحلال، وإياك وكسب الحرام، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. وأنت يا عبد الله ما الذي تقوله لك زوجتك وأنت خارج من بيتك؟ ما الذي بماذا توصيك زوجتك وأنت تارك لها وأنت تاركها إلى العمل؟ لا تنسى أن تشترينا الذهب والفضة والحرير. لا تنسى أن تمر بالبنك لأجل أن تدفع المبلغ الشهري وما معه من الفوائد الربوية. ما الذي تقول لك هذه الزوجة؟ فأين أنت منهم؟ وكيف أولادك يا عباد الله؟ وكيف أولادك يا عبد الله؟ هل أخذت بأيديهم فسجلتهم في مسجد ليتعلموا فيه القرآن واللغة العربية؟ هل تأخذ بيدهم؟ هل تأخذ بأيديهم لتذهب معهم إلى المسجد ليشهد صلاة المسلمين؟ كيف أنت وأولادك يا عبد الله؟ ألم تسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قال المفسرون: إن الله تبارك وتعالى يلحق بالمؤمنين ذرياتهم في الجنة. إن الله تبارك وتعالى يلحق بالمؤمنين ذرياتهم في الجنة إذا تبعتهم في الإيمان. إذا اتبعتهم في الإيمان يلحقهم بآبائهم في منازلهم وإن لم يبلغوا عملهم، ليجمع الله بينهم على أحسن الوجوه بأن يرفع ناقص العمل إلى كامل العمل وما ينقص ذلك من منزلته وعمله للتساوي بينه وبين ذاك. واعلم أيها الأخيار، واعلموا أيها الأخيار أن العكس أيضا صحيح. فالله تبارك وتعالى يلحق الآباء بأولادهم في الجنة فتنفعهم طاعة أولادهم. أي نعم، تنفعك طاعة ولدك، تنفعك طاعة ولدك، كما أخرج أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول العبد: يا ربي أنى لي هذه، يا ربي أنى لي هذه، كيف وصلت إلى هذه الدرجة ولم أعمل حتى أصل إليه؟ فيقول الله تبارك وتعالى: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. وفي الصحيح، وفي الصحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بالثلاث. ماذا؟ بيت عال، أولاد كثيرون، مال طائر. لا والله، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. فكيف فعلت بأولادك يا عبد الله؟ هل ربيتهم حتى يكونوا داعين لك بعد مماتك؟ هل تدعو الله عز وجل أن يجعلهم من الصالحين؟ هل توقظهم لأجل أن يصلوا معك صلاة الصبح في وقتها؟ كيف أنت منهم يا عبد الله؟ اعلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يعلم الصبي الصلاة حينما يعرف يمينه من شماله. فهل علمت ولدك الصلاة؟ أو تقول كما يقول الكثير: هذا صغير، عنده 15 عام، هذا صغير. عجيب، والله عجيب. وكان إبراهيم النخعي رحمه الله يعلم الصبيان الصلاة عند سقوط أسنان الروابع، عند سقوط أسنان الروابع. وأنت ولدك باش يصلي مدى صغير، وباش يصوم مدى صغير، لكن باش تقيده في الكاراتيه كبير ما شاء الله، وباش تقيدوا في كرة القدم لا خلاص ذا العقل دابا إلى آخره. أما باش يصلي وباش يصوم تسمع الأب أو الأم يقولان لا لا مازال صغير مازال ما كبرش. فاتق الله يا عبد الله، فاتق الله يا عبد الله، واعلم أن أولادك مهما بلغوا في الغنى وفي جمع الأموال لم ينفعك ذلك من شيء وأنت في القبر إلا دعاؤهم لك الصالح، إلا أن تترك خلفك بنين وبنات يدعون ويرفعون أيديهم متضرعين لله تبارك وتعالى وهم يقولون اللهم ارحم ولدي، اللهم ارحم والدي ووالدتي، اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولهذه الأموال وهذه البيوت وهذه الأشياء التي عندها هل ذلك ينفعك في قبرك؟ لا والله لا ينفعك ذلك من شيء. والله نحن نتعجب حينما نرى الواحد من هؤلاء يؤثر أن يكون ولده زانيا لا يصلي ما دام أنه صاحب أموال. والله العجب كم سمعناها، كم من أخوات تستأذن عند أبويها تقول أن أحد الإخوة المعروف بالصلاح والتقوى يريد أن يخطبني، فإذا بالأم أو بالأب يسأل تلك البنت يقول ما أصله؟ أول سؤال ما أصله؟ مغربي بحالنا، جزائري مثلنا، تونسي مثلنا. إذا كان كذلك ننتقل إلى السؤال الثاني، فإن لم نكن موافقا لجواب الأول طرد. فأما السؤال الثاني ما عمله؟ مهندس، طبيب أو ما أشبه ذلك؟ فإن كانت المهنة عالية انتقلوا إلى السؤال الثالث وإلا طرد. والسؤال الثالث كم أجرته الشهرية؟ 2000 يورو، 2500، 3000 يورو. فإن وافق ذلكم المبلغ قالوا بسم الله، وإن لم يوافق طرد. فأين السؤال عن الصلاة؟ وأين السؤال عن الاستقامة؟ وأين السؤال عن الطاعة؟ وأين السؤال عن التقوى؟ فإذا سألتهم قل لهم يا عمي سألهم ربما ما يصليش، ربما منحرف، ايش يقول لك؟ الله يهديه، هذا ماشي هذا بينه وبين الله، ما عنديش علاقة بذلك. سبحان الله سبحان الله، والله يفضل أن يزوج بنته بمنحرف بضال بخبيث بطالح ما دام أنه صاحب أموال وصاحب مرتبة وصاحب منصب، أما علاقته مع الله فلا يلتفتون إليها طرفة عين. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله يا عباد الله، وليكن أول إصلاحك لولدك إصلاحك لنفسك، إصلاحك لنفسك. فالخير عند أولادك ما صنعت، والقبيح عند أولادك ما تركت. فعلمهم الكتاب، فعلمهم الكتاب والسنة والصلاة والخير، علمهم ذلك، واسأل الله عز وجل أن يقر عينيك بأن يجعل أولادك وزوجتك من الصالحين في الدنيا، وأن يلحقك بهم في أعلى جنان الخلد في الآخرة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. Mes frères, une fois de plus, nous faisons connaissance avec une qualité, des nombreuses qualités des serviteurs du tout miséricordieux. Aujourd'hui, nous sommes avec un verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit, en parlant de ses serviteurs vertueux, et ceux qui disent, ô notre Seigneur, offre-nous de ta part, dans nos femmes et nos enfants, une fraîcheur du regard, une fraîcheur de l'œil, yani une réjouissance, un bonheur, une joie. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا et fais de nous, pour les pieux, des guides, des modèles. Ce verset, mes frères, contient deux demandes. La première, ces serviteurs vertueux demandent à Allah tabaraka wa ta'ala à ce qu'ils aient une part dans l'obéissance de leurs femmes et de leurs enfants. Et la seconde, à ce qu'Allah ta'ala fasse profiter aux pieux leur obéissance et leur piété afin qu'ils la prennent comme modèle. Concernant la première demande, qui est le fait d'invoquer Allah subhanahu, afin qu'ils mettent dans nos femmes et nos enfants une jouissance, une réjouissance pour notre regard, yani une joie. Ibn Kathir rahimahullah dit, c'est le fait de demander à Allah ta'ala que nos enfants et nos femmes lui obéissent et l'adorent sans rien lui associer. Et Al-Hassan al-Basri rahimahullah il a dit, c'est le fait de demander à Allah de nous faire voir dans nos femmes, nos enfants et dans nos proches l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous informe et nous dit qu'il y a dans certaines de nos femmes et certains de nos enfants des ennemis contre nous, des ennemis pour nous. Allah dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, il y a parmi vos femmes et vos enfants des ennemis pour vous. Alors prenez-y garde. Les serviteurs du Tout-Miséricordieux, lorsqu'ils surent cela, ils invoquèrent Allah subhanahu wa ta'ala et se dirigèrent vers lui avec des cœurs pieux en lui demandant de faire de leurs femmes et de leurs enfants une réjouissance pour leur regard dans l'adoration d'Allah, pas des ennemis. Et Allah subhanahu wa ta'ala il répond à l'appel de son serviteur. Et lorsqu'il leur a donné ceci et que ce serviteur pieux voit sa femme et voit ses enfants, ceux qu'il a sous sa responsabilité, faire partie de ceux qui s'inclinent et se prosternent, ceux qui se recueillent et qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, ceci a rempli leur vie de joie et de bonheur. Comme il a dit Mohammed ibn Ka'b rahimahullah, il n'y a pas une chose plus réjouissante pour le croyant que de voir sa femme et ses enfants adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, les frères, c'est l'inverse, comme dans beaucoup de choses. Et wallahi, cette phrase, on la répète souvent le vendredi. Toujours on parle des choses que moi je devrais être, et après on dit, et aujourd'hui c'est l'inverse. Et fi'lan c'est l'inverse, mes frères. Et il n'y a de force et de puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, des fois on voit des gens, Allah ta'ala leur accorde, il accorde la réussite à un de ses enfants. Et tu vois cet enfant-là, qui cherche la guider, et qui s'accroche à la sunna, extérieurement et intérieurement, j'insiste, extérieurement et intérieurement, les frères. S'accrocher à la sunna, c'est à l'intérieur avant l'extérieur. Parce que si tu t'y accroches seulement par l'extérieur, tôt ou tard, ton intérieur, il va te trahir. Tôt ou tard, ton intérieur, il va te trahir. Et wallahi, les frères, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais nous, on en a vu des frères, mashallah, pendant quelques temps, s'accrocher à la sunna, c'est zahir. Et après un certain temps, on revient plus tard, on revoit quoi ? Il a été tenté par la mode, la tectonique. Alors il est passé du kamis au jean serré. Il est passé de la barbe à la crête. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wallahi, comme je l'ai vu certains parmi vous sourire, ça ne fait pas sourire, ça fait peur. Premièrement, et ça fait de la peine. Ça fait de la peine quand tu as prié avec des personnes qui prétendaient être sous la sunna comme toi, et au moindre coup de vent, à la moindre vague, ils tombent. et tout part, tout disparaît. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا زلزلوا أين الزلزال؟ ما فيش زلزال والناس يتركون أعمالهم ويتركون دينهم واستقامتهم والله المستعان. الله يقول القرآن pensez-vous que vous rentrerez au paradis alors que rien du mal qui a touché ceux qui vous ont précédés ne vous a touché. La famine les a touchés, la guerre les a touchés, le malheur les a touchés, et ils furent secoués, ils furent tremblés. Et toi, qu'est-ce qui t'a touché, Harry? Qu'est-ce qui t'a touché? T'as pas trouvé du travail? Miskin, t'as l'air ami. Pourquoi tu pleures? T'arrives pas à te marier? Miskin, jeune, pourquoi tu pleures? J'en passe à des meilleurs. C'est des épreuves, ça. C'est des épreuves pour nous, parce que notre foi, elle est faible. Parce que notre foi, elle est faible. Alors comme on s'accroche au zahir, on s'accroche à l'extérieur, et on oublie l'intérieur, et bien Allah Ta'ala, il met au grand jour les secrets. Allah Ta'ala, il met au grand jour les secrets. Faut faire attention à ce qu'on a dans le cœur, les frères. Je dis pas que le zahir n'a pas d'importance, celle-là ou celle-là. Et vous savez tous ici bien ma position par rapport à ça. Que l'apparence a une grande importance. Elle fait partie des actions qu'Allah nous demande de suivre et de l'obéissance qu'on lui doit. Mais mettre en avant cela et délaisser ce qu'il y a à l'intérieur, c'est le khusran al-mubin, mes frères. Al-Hasid, on voit un père de famille ou une mère de famille. Un jour, elle trouve chez lui, un jour, il trouve chez lui un enfant qui est le sien. Il a mis le qamis, il a laissé le lihya. Si c'est une fille, elle a mis le hijab, rubbama al-jilbab, rubbama al-niqab. Et tu vois ce père de famille au marché, il dit « Oh là, il m'est arrivé une catastrophe !» Alors les gens ils demandent « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Ta femme elle est morte ?»« Non !»« Ta maison l'a brûlée ?»« Non !»« On a volé ta voiture ?»« Non, qu'est-ce qui se passe ?»« Mon fils il va à la mosquée. »« Ma fille elle met le hijab. Mesquine ! Comment tu vas faire ?»« Ah, je sais pas. » Alors qu'il rentre chez lui, et il trouve son fils en train de faire la prière, il se mord les doigts de rage. Et lorsqu'il voit son fils, en train de lire le Coran, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et il va le voir, il lui dit, mais t'es encore jeune, tu es encore petit, laisse ça pour les vieux, va dehors, va chercher du travail. Moi, les frères, je vois pas de différence entre ces gens-là, qui se mettent en obstacle sur le chemin d'Allah, et Abu Lahab et Abu Jahl. Elle est la différence, il y en a une, c'est que ces gens-là, ceux qui se mettent en obstacle sur le chemin d'Allah, ils sont musulmans, on les rend pas koufars. Ils sont musulmans. Et Abu Jahl et Abu Lahab, c'est des koufars. Donc Abu Jahl et Abu Lahab, quand ils mettent une pierre sur Bilal, radiallahu anhu, c'est normal, c'est des koufars. Mais quand le père de famille, il interdit à son fils d'aller à la mosquée, il lui ordonne d'enlever la barbe, il ordonne à sa fille d'enlever le hijab, on comprend plus rien. Combien de sœurs, elles viennent se plaindre? Et elles disent, mon père, il me frappe et il m'insulte parce que j'ai mis le hijab. Combien de frères sont venus me voir? Il y a un frère, il est venu me voir, il m'a dit, ah, ma mère, elle veut pas que je sorte avec elle si j'ai le permis. C'est pas des convertis, c'est des arabes, c'est des musulmans. Combien de frères, un frère, il est venu me voir? Il m'a dit, ah, ma mère, elle m'a interdit de rentrer à la maison si jamais j'entends ma barbe. Subhanallah! Subhanallah! Et ses mêmes parents, quand c'est le Eid, ou bien quand c'est Tarawih, ou une autre occasion, tu les vois à la mosquée, ils se mettent au premier rang et ils montrent aux gens, moi je suis un musulman. Moi je suis un musulman. Ibadur Rahman, mes frères, eux ils sont heureux, ils sont contents quand ils voient leurs enfants et leurs femmes obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à eux, ils préfèrent à ce que leur enfant soit un fornicateur et qu'il fasse pas la prière, tant qu'il a de l'argent, tant qu'il a une fortune, le reste n'intéresse pas. Et dis-moi mon frère, qu'est-ce qui est plus beau que la nuit où tu te réveilles et tu trouves ton lit vide et tu te lèves et tu vas voir et tu trouves ta femme en train de prier la nuit pendant que les autres dorment? Qu'est-ce qui est plus beau, mon frère, que tu rentres dans la chambre de ton fils et tu le trouves avec un mushaf dans les mains pour lire le Coran? Qu'est-ce qui est plus beau, mon frère, que de rentrer dans la chambre de ta fille et de trouver un hijab en train de faire du tasbih? Wallahi, mes frères, wallah, ça c'est meilleur et plus beau que les milliards et les milliards d'euros et de dollars. Il n'y a rien de plus beau que ça.
Encore plus quand t'as rien fait pour que ça se passe. Quand t'as rien fait pour que ça se passe, na'am. La plupart des parents de famille, ils étaient tellement préoccupés par ramasser l'argent et construire des maisons au blé, qu'ils ont délaissé l'éducation de leurs enfants. Et un jour, ils se réveillent et ils trouvent leur fils en train de faire la prière. Et ils trouvent leur fils, il a appris le Coran. Et ils trouvent leur fils, il va à la mosquée. Et ils trouvent leur fille, elle sort pas dehors. Elle se préserve, elle se maintient. T'as rien fait, Allah, il t'a donné ta cadeau. Subhanallah. Et nous, on voit quoi maintenant? Les gens, ils préfèrent inscrire leurs enfants au karaté plutôt que les inscrire à la mosquée pour apprendre le Coran. Quand c'est pour la mosquée, ils te disent quoi? Non, il est encore petit, mais elle. Mais il a 15 ans. Non, mais même, il est encore petit. Et quand on leur demande de les ramener à la mosquée, ils te disent non, ils font du bruit, ils gênent. C'est pas grave. Jibrun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la khutba sur le minbar. Et Al-Hassan ibn Ali radiallahu anhu, il rampait devant lui. C'est pas mi'hbou. Quel mi'hbou qu'dame? Vous les chakras d'amrou, mais c'est mi'hbou qu'dame. Maximum, il va avoir un an et demi. Quel âge il va avoir s'il rampait devant lui? Le prophète, il a arrêté la khutba. Il est descendu du minbar. Il a pris le Hassan. Il est monté sur le minbar avec. Il a dit, inna min awladi, inna ma amwalukum wa awladukum fitna. Il y a dans votre fortune et vos enfants une tentation, une épreuve pour vous. Une épreuve pour vous. Et tu vois dans les mosquées maintenant, ils mettent des affiches. Interdit de ramener les enfants de moins de 10 ans, j'ai vu dans une mosquée. Subhanallah. Le prophète dit, alayhi salatu wassalam, allimu abna'akum as-salat al-sab'a. Hein? Il dit, enseignez à vos enfants la prière à 7 ans. Et tu vois dans des mosquées, tu vois quoi des affiches qui marquent quoi? Interdit de ramener les enfants de moins de 10 ans. Ajib, Allah, Ajib. Allah, Ajib. Et ces gens-là qui ont des épouses, qui sont pour eux une cause de leur marche arrière dans l'islam. Parce que soit tu avances, soit tu recules, tu ne fais pas là, tu stagnes pas, c'est pas possible. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ. Hein? أَنْ يَتَقَدَّمَ, pour celui d'entre vous qui veut s'avancer, أَوْ يَتَأَخَّرَ, ou se reculer. Tu ne peux pas rester sur place. Soit ta foi est moute, soit ta foi est bête. Et pour beaucoup de gens, leurs épouses sont pour eux une cause de baisse de la foi. Et une cause d'égarement. N'as-tu pas entendu ce que le prophète va dire, alayhi salatu wassalam? On épouse une femme pour quatre raisons. Ou bien pour l'une des quatre raisons suivantes. Pour sa fortune, pour son honneur, yani sa lignée, sa noblesse, pour sa beauté, et pour sa religion. Choisis celle qui est religieuse, que t'es ma périsse. Que t'es ma périsse, choisis celle qui est religieuse. Et toi, ta femme, elle est comment? Elle est noble. Elle est riche. Elle est belle. Et ben, comment ça va t'être utile, ça, devant Allah Ta'ala, le jour où aucune fortune et aucune famille ne sera d'utilité? La seule chose qui te sera utile, mon frère, c'est son obéissance. C'est sa piété et sa crainte. C'est ça qui te sera utile, fil dunya wa fil akhira. Le prophète dit, alayhi salatu wassalam, ce bas monde est une jouissance. Ce bas monde est une jouissance. Et la meilleure de ces jouissances, c'est une femme pieuse. C'est une femme pieuse. Il y a des historiens qui rapportent dans leur livre que là, un homme parmi les deux prédécesseurs, lorsqu'il sortait de chez lui pour chercher à manger pour sa famille, sa femme le suivait jusqu'à la porte et lui disait, ya Abdallah, crains Allah sur nous. Crains Allah envers nous. Et ne nous nourris que du halal. Et prends garde à ramener du haram. Parce que nous ne pouvons pas patienter sur la faim. Mais nous ne pouvons pas patienter sur l'enfer. Et alors elle dit quoi quand tu sors? Elle dit, n'oublie pas d'aller à la banque pour payer le crédit. Elle te dit pas, va à la mosquée, c'est l'heure. Elle te dit, va à Carrefour pour faire les courses. Elle te dit, ramène la petite. La petite, elle a 19 ans, mais elle appelle toujours la petite. Ramène-la, elle a des cours de danse. Hein? Elle te dit, va ta femme à toi, Akhi. C'est pourquoi elle te dit ça? Parce que t'as pas choisi ta religion. T'as choisi sa beauté. T'as choisi sa famille. T'as choisi sa fortune. Et tes enfants, mon frère, comment ils sont? Comment ils sont tes enfants, mon frère? Est-ce que tu demandes à Allah, subhanahu? Est-ce que tu demandes à Allah subhanahu de faire de des pieux? Est-ce que tu prends le Coran et tu t'assois à côté d'eux pour le lire avec eux? Est-ce que tu les réveilles le matin pour faire salat subhanahu avec toi? Ou bien est-ce que tu préfères les emmener au karaté et au foot? Ben là qu'ils vont devenir des joueurs professionnels. Hein? Allah Ta'ala dit dans le Coran, quant à ceux qui ont cru et dont la descendance les a suivis dans la foi, nous les ferons rejoindre, nous leur ferons rejoindre leur descendance. Où? Dans le paradis. Et nous ne réduirons en rien leurs actions. Les avant les tafsirs, ils ont dit, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il fait rejoindre aux croyants leur descendance dans le paradis et dans leur degré, à condition qu'ils les ont suivis dans la foi. À condition qu'ils les ont suivis dans la foi. Et cela, afin qu'Allah il les réunisse de la meilleure des façons. Comment? En élevant celui qui a le moins degré, le moindre degré, vers celui qui a le degré parfait et complet. Et ceci, sans que ça ne leur enlève rien de leur récompense et de leur degré. Et l'inverse aussi, il est réel, mes frères. L'inverse aussi, il est réel, mes frères. Ça veut dire que toi, si Allah il te fait rentrer au paradis, et que tu as un degré inférieur à celui de tes enfants, Allah il t'élèvera au degré de tes enfants. Et à ce moment-là, l'obéissance de tes enfants et leur piété, elle te surintime. Et là, tu diras, Alhamdulillah, et mes enfants étaient pieux. Prophète dit, alayhi salatu wassalam, dans le hadith, Allah, il élèvera le degré du serviteur pieux dans le paradis, jusqu'à ce que le serviteur dise, Ya Allah, comment suis-je arrivé à ce degré? Même lui, il va se dire, j'ai pas fait autant d'actions pour pouvoir arriver là. Et Allah, il lui dira, c'est parce que ton fils, il a pleuré ton pardon, il a pleuré le pardon pour toi. Naam, ton fils, il demandait à Allah de te pardonner. Alors Allah, il lui a exaucé. Et il a élevé ton degré dans le paradis. Et il t'a rejoint, il t'a fait le rejoindre. Et dans le hadith, le prophète dit, alayhi salatu wassalam, lorsque le fils d'Adam, il meurt, ses actions s'arrêtent. Ses actions se coupent. Sauf de trois façons. Une aumône continue. Il y a une aumône dans le bien. Et continue, même après sa mort. Ou une science qu'il a enseigné et avec les gens qui profitent. Bien sûr, une science religieuse. Quand on parle de science dans le Coran et la Sunna, c'est l'ilm al-shar'i, la ghayr. La ghayr. D'accord? Quand on parle de science dans le Coran, quand Allah dit innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, c'est l'ulama al-rabbaniyun. C'est pas les ostéopathes et les psychologues et les neurologues et je ne sais quoi. C'est le savant qui a appris le Coran, qui a appris la Sunna, qui la met en pratique et qui l'enseigne aux gens. Quand Allah dit « Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun » Il parle de la science religieuse. Une science avec laquelle les gens tirent profit. Et bien après ta mort, si tu as appris le Coran à tes enfants, ou si tu as appris un hadith à des gens, et qui continuent à te le rappeler après ta mort, et bien tu continues vers les hasanat. Et dernière chose, un enfant pieux qui invoque Allah pour toi. Un enfant pieux qui invoque Allah pour toi. Ils ne vont pas commencer tes enfants, toi. Comment ils sont tes enfants, toi? Est-ce que tu as demandé à Allah qu'ils fassent d'eux des pieux? Est-ce que tu leur demandes? Est-ce qu'ils ont fait leur prière à l'heure? Est-ce que tu fais attention à leur présentation? Hein? Pose-toi la question, Akhi. Et tu sauras toi-même. Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, il enseignait la prière aux enfants dès qu'ils savaient déterminer leur droite et leur gauche. Et Ibrahim al-Naqa'i, rahimahullah, il enseignait la prière aux enfants dès qu'ils perdaient leur d'anglais. Et toi, tu dis là encore petit, mais astré, moi j'ai commencé à 35 ans à la Chibdaha d'Ababo. Hein? Moi j'ai commencé à 35 ans, pourquoi il va la commencer maintenant lui? Wallah, il t'entendait pas des phrases, Ajib. Wallah, il est Ajib. Alors craignez Allah, mes frères. Craignez Allah, mes frères et mes sœurs. Et maintenant que vous avez entendu cela, demandez à Allah qu'il fasse que votre joie soit dans la soumission de vos maris, ou bien de vos femmes et de vos enfants. Et si on veut à partir d'aujourd'hui contribuer à cela, qu'on commence par nous-mêmes, en tant que parents, parce que le parent est un modèle pour l'enfant. Ce que le parent il fait pour l'enfant, c'est bien. Et ce que le parent il délaisse pour l'enfant, c'est mauvais. Alors crains Allah dans ce que tu fais, ce que tu délaisses. Et demande à Allah qu'il fasse que tes enfants ils soient pieux. Et si jamais tu as l'opportunité et le privilège de voir tes enfants lever leurs mains et de dire d'invoquer Allah Ta'ala pour toi, eh bien fais toujours de choukr. Prosterne-toi en remerciement vers Allah Subhanahu wa Ta'ala de t'avoir donné quelque chose qu'il a privé à de nombreuses personnes. Et demande-le, demande-lui de parfaire ta joie dans ce bas monde en voyant ta femme et tes enfants toujours sur l'obéissance et de parfaire ta joie dans le paradis en faisant en sorte que tu sois avec lui dans le même degré. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلحنا أجمعين. اللهم أصلحنا وأصلح ما فينا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء. اللهم صفي سريرتنا. اللهم صفي سرائرنا. اللهم صفي سرائرنا. اللهم اجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا. اللهم اجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا. واجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا. اللهم ارحمهما كما ربوننا صغارا. اللهم ارفع درجاتهما في المهديين. اللهم أعطهم كتبهم بأيمانهم يا رب العالمين. هناك أم من الأمهات هي معروفة لدينا وقد أصيبت بمرض خطير وعضال وهي الآن في المستشفى وهي بين الموت والحياة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما. اللهم أبدل سقمها صحة ومرضها عافية. اللهم اجعلها كفارة لسيئاتها. اللهم اجعلها تطهيرا لآثامها يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع درجاتها بها يا أرحم الراحمين. وهناك أخ آخر أصيب بمرض أو بشرة في إحدى عينيه فنخشى عليه أن يعمى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعافيه وأن يشفيه. اللهم عافه واشفه يا رب العالمين. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين وأبدل سقمهم صحة ومرضهم عافية يا أرحم الراحمين. وقوموا لصلاتكم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.